psychedelic woman for some nightclub. And I ask him, say,
oui, bonjour à tous. Vous êtes à l'émission Psychodébat. Aujourd'hui, on va traiter les problèmes des peurs et des phobies. Donc voilà la thématique d'aujourd'hui. Donc on va parler un peu de tout ça. Donc la question qui se pose pour rapport aux peurs, et la première chose, c'est que vous craignez la mort, la maladie, l'abandon, la trahison, les humiliations. Redoutez-vous la solitude, l'échec, les rejets, les jugements des autres? Donc vous voyez bien que la peur, même si quelque chose de très positif, parce que grâce à la peur, ça nous évite, par exemple, quand vous avez un enfant, vous le dites, il ne faut pas traverser la route parce qu'il peut y avoir un camion qui peut, il peut faire quelque chose de grave. Donc vous voyez comment la peur, ça peut être aussi un signe de protection, de prévention. Donc oui, cette peur, elle est positive. Mais la peur, quand il devient quand même angoissant, quand il devient extrême, tout ça, ça devient quelque chose qui est difficile à gérer. C'est pour ça que chacun de nous, on a des peurs différentes. Donc je vais peut-être, chacun de nous s'est posé la question, on est avec Sarah et on est avec Asna, on va se poser les questions, quelles sont les grandes questions liées à la peur. Tout à l'heure, on parlait de cette question qu'on a, la peur de regarder les autres. Des fois, vous voyez, il y a différents types de peurs. Il y a des peurs qui viennent de la psychogénéalogie, parce qu'ils nous ont transmis des peurs qu'on n'avait pas, ou la même peur, quelqu'un peut être content et l'autre non. Donc, je vais faire un petit tour pour compléter cette exposition, pour avoir ces grandes questions de la peur. Et on va commencer par Asna et après Sarah.
Bonjour. Alors, moi, je n'ai pas cet rapport très négatif face à la peur, parce que je pense que j'ai encore des peurs très... peur d'enfant, en fait. Et donc, tout ce qui est peur du noir, les films d'horreur, je n'ai pas encore développé les peurs d'adultes, entre guillemets. Donc, on en reparlera un peu après. À toi, Sarah.
Oui, bonjour voilà. À tous. Donc, comme tous les jeudis, on se retrouve pour un psychodébat. Et je voulais rappeler que c'est important que ce soit une discussion. Donc là, on est aux trois autour de la table, mais vous pouvez nous rejoindre en appelant le 04 91 08 28 10. Et le but est de trouver des solutions, parler d'un sujet en particulier. Donc n'hésitez pas à poser des questions et peut-être qu'à travers nos témoignages, vous trouverez des réponses aussi à des questions que vous n'osez pas vous poser. Donc moi, je pense que j'ai un rapport commun à la peur. J'ai peur de certaines choses plus que d'autres et j'ai aussi une manière de surréagir, mais plus pour les peurs, les petites peurs. Et je pense que je sais plus me rationaliser pour les grandes peurs de la vie qu'on va aborder tout au long de cette discussion et pour lesquelles on va plus, justement, je pense, où on pourrait plus paniquer. Je pense que j'arrive plus facilement à garder mon calme face aux grandes peurs que face aux petites.
C'est vrai que quand on a peur, on a déjà des problèmes liés à notre palpitation de notre cœur. On a les pupilles qui changent un peu de taille, on va dire comme ça. On a la transpiration pour certaines personnes et d'autres sont assez souvent une boule au ventre. Donc vous voyez bien que la peur aussi, il y a des expressions très, très, qu'on peut détecter. Par contre, ce que vous voulez, je voulais commencer peut-être par une question pour lancer un petit peu le débat avec les auditeurs. Dire quelle est notre plus grande peur. Et moi, je vais commencer par moi-même, dire voilà, peut-être, je donnerai deux exemples. La plus grande peur de ma vie, peut-être aussi, c'était quelque chose que j'ai vécu quand j'étais au Chili. Au Chili, quand j'ai vu comment les gens étaient torturés. Évidemment, juste de voir le tortionnaire qui s'approchait, j'avais la peur de ma vie d'imaginer tout ce qu'avait fait à ces gens qui meurent, tout ça. Donc, vous avez une peur qui est réelle pour une part, parce que lui était vraiment un tortionnaire. Mais pour rapport à moi, j'avais tellement peur que je m'évanouis deux ou trois fois devant ces tortionnaires. ce qui m'a empêché d'être torturé. Donc c'était une peur, on peut dire, qui m'a sauvé la vie. Donc vous voyez bien comment la peur peut être aussi, plus tard, quelque chose qui peut nous aider. Après, évidemment, l'autre grande peur que j'ai eue tout le temps, mais vous verrez que tout est lié à notre psychogénéalogie, à notre histoire. Quand j'arrivais en France, j'ai eu très, très peur de l'avion, pour prendre l'avion. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte que cette peur que j'avais était vraiment... Je me suis rendu compte qu'avec la peur, vous pouvez transpirer, vous pouvez changer votre rythme cardiaque. Vous avez peur, peur. Quand j'étais à l'avion, je croyais qu'il était tout seul avec une chaise dans l'air, dans l'espace, et que je pouvais tomber à tout moment. Donc, vous voyez comment le côté subjectif et le côté objectif, des fois, on ne vit pas à ce qui est raisonnable. Donc, cette peur, je me suis rendu compte avec le temps, qui venait au fond de la peur de prendre l'avion quand je suis parti du Chili, parce que je m'en arrachais mon cœur de partir, parce que je ne voulais pas quitter le pays que j'aimais. Et je suis parti comme ça vers des pays plus démocrates, que c'était la France. Mais j'ai eu cette peur, et la peur de retrouver la dictature, des tortionnaires, tout ça. Donc vous voyez bien que c'était une peur aussi historique et rationnelle. Sarah. La plus grande peur de ta vie ou les plus grandes peurs?
Moi, je pense que j'ai plus des peurs que je ne peux pas rationaliser, mais je dirais l'événement qui m'a fait le plus peur, moi, personnellement, que j'ai vécu. C'était quand je suis tombée dans un trou et qu'il pleuvait. Donc, déjà, il y avait la panique des gens autour de moi. J'étais petite. Donc, je pense que c'est ça qui m'a fait le plus peur. Et le fait de pouvoir tomber aussi. Et je pense que là, du coup, c'était la peur de l'anticipation. J'ai réussi à me relever sur mes bras alors que j'ai jamais eu beaucoup de force dans mes bras. Mais là, ça jouait sur l'adrénaline. Donc, on parlait des différentes réactions du corps à la peur. Et donc là, je pense que ça peut être vu comme une protection parce qu'il fallait que j'aie peur pour avoir cette adrénaline qui me pousse à sortir du trou. Et il y a eu un relâchement. Donc après, j'ai eu mal à tous les muscles possibles et imaginables. Et oui, et c'est surtout d'avoir vu la peur des gens. Je pense que c'est très angoissant, surtout quand tu es enfant, de voir les gens autour de toi essayer de crier, demander de l'aide, etc. Et j'ai pas de peur de l'avion. Pourtant, je suis mal en avion, genre médicalement. Mon corps n'est pas bien en avion parce que mon corps supporte très mal l'altitude. Mais j'ai pas de mal en avion. Et j'ai déjà fait des trajets en avion avec des gens qui ont très peur de l'avion. Et avec moi, ça s'est plutôt bien passé parce que je pense que je suis de nature je pense que quand les gens ont peur autour de moi, je rationalise encore plus parce que je me dis je dois être la personne qui rationalise.
Et comme une obligation.
Voilà. Donc je pense que ça peut être un signe. Je pense que c'est un truc aussi naturel. On peut parler des parents, quand ils ont peur pour leurs enfants, ils ne vont pas forcément montrer la peur pour que l'enfant puisse surpasser encore plus la peur. Je pense que c'est important de ne pas justement transmettre la peur. Parce que ça peut être de la transmission. Là.
C'est très intéressant ce que tu dis, Sarah. D'ailleurs, si vous avez une plus grande peur que vous voulez nous faire partager, c'est le moment, parce que c'est incroyable. À fur et à mesure qu'on parle de peur, signifie que chacun de nous a trouvé aussi une solution à chaque peur ou une façon de réagir la meilleure possible. Asna, toi, ta plus grande peur. En attendant les appels téléphoniques nombreux, ça va être le 04... 91 08 28 10.
Exactement.
Alors, moi, j'ai pas de plus grandes peurs qui m'ont réellement marquée, mais j'ai deux petites histoires à raconter là-dessus. La première, c'est j'étais au Sri Lanka, il faisait nuit et je devais aller aux toilettes pour me soulager, mais comme étant un enfant, je voulais dire je suis grande et je ne voulais appeler personne. Et en étant un peu endormie, j'ai pas allumé les lumières. Et arrive le moment où je allume la lumière et je vois une mygale géante.
Une mygale ?
Une mygale, ouais.
Ah, mais t'inquiète pas qu'il y aurait eu peur aussi.
Et là, il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi. Soit je me soulageais dans la jungle, ce qui est peut-être pire. Soit je réveillais tout le monde, mais je voulais faire la grande. Soit j'affrontais la mygale.
La mygale.
Donc droit dans les yeux. Donc ça fait qu'après, j'ai pas développé de peur des araignées. Ça m'a un peu vaccinée, mais sur le moment, j'ai vraiment eu très peur. Et c'est un peu la réaction de soit je me fige, soit je fais quelque chose. Et maintenant, je sais que scientifiquement parlant, on appelle la réaction du tout ou rien. Et on agit tout le temps comme ça. Et pour ma deuxième anecdote, donc là ça me traîne jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur du noir et ça a une source. C'est que petite, mon père m'a fait regarder un film d'action, La Planète des Singes, qui n'est même pas un film d'horreur. Sauf qu'il m'a fait croire après que les singes viendraient me manger. Donc, et vu que c'était la nuit, j'ai intégré ça en tant que la nuit, il y a des singes qui sont là pour venir me manger. Et donc je ne peux pas dormir dans le noir, je n'ai pas pu rester dans le noir pendant très longtemps. Et même actuellement, je dors absolument avec un fond de vidéo. Donc ça me suit encore, donc c'est pour ça que je dis que j'ai encore des peurs très beaucoup, enfin, d'enfants et pas d'adultes. Par contre, justement, les peurs d'adultes, j'arrive très bien à les maîtriser. Donc
voilà, vous voyez comment les peurs, les petites peurs, les grandes peurs. Moi, j'aimerais maintenant, en attendant un appel téléphonique, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous appelle. Et on va donner priorité à l'appel téléphonique. Allô?
Oui, allô?
Oui, on vous écoute.
J'avais une peur que j'ai pensée, hormis les petites phobies triviales, une peur qui a grandi au fil des années. Pour moi, c'est la peur du futur, dans une société assez compliquée, avec un futur incertain, comme avec le réchauffement climatique, qui fait très peur. C'est un bon sujet.
C'est qui à l'appareil? C'est...
Marie.
Oui, Marie. Ce qui t'a dit... C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, nous, on bat beaucoup avec l'association Les Rémois dans les écoles, dans les lycées. Et dans les lycées, on trouve aujourd'hui quelque chose qui est très, très douloureux, quand même en même temps, de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont peur d'avoir d'enfants parce qu'ils ont peur du futur. Il y a beaucoup de jeunes aussi, c'est pour ça, je ne sais pas si tu as entendu les nouvelles partout, on parle des problèmes de maladies mentales, de santé mentale, dans le sens que beaucoup, beaucoup de jeunes aussi, l'avenir, la retraite, le travail, le Covid qui est passé par là, ils font que les jeunes sont assez éco-anxieux de le climat. Et donc, ce qui t'a dit, c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup de monde. L'important, peut-être, moi je donne ma petite idée, parce que quelque part, si j'ai lutté toute ma vie pour l'écologie, c'est parce que quelque part, derrière, il y avait une éco-anxiété de l'avenir de la planète. C'est pour ça qu'on fait les Rémois, on fait pas mal de choses, parce que quand on agit, on dirait qu'une partie de la solution est là, mais pas non plus croire qu'on peut tout faire. Ça veut dire qu'il faut agir, me dire j'ai fait ma part, et peut-être ça... Ça transforme, oui, peut-être je suis responsable aussi, mais je ne suis pas coupable. Parce qu'il y a un sens de culpabilité qui fait peur de l'avenir, qui fait peur des choses qui vont suivre, selon moi. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour rapport à ça, et on va continuer maintenant avec quelque chose qui dirait les petites peurs si insignifiantes, où je me reviens de parler sur ça. Parler des petites peurs, des peurs qui sont irrationnelles, on va dire comme ça. Je vais commencer cette fois-ci par toi, Asna, après par Sarah. Les peurs qui ça nous fait rire aujourd'hui, mais qui sont des peurs, sans importance aujourd'hui.
Alors, un truc qui va faire rigoler, je pense. Quand j'étais petite, j'avais extrêmement peur du film Blanche-Neige de Disney.
Blanche-Neige, normalement c'était pour rigoler, c'est pour être, pour l'adorer, Blanche-Neige.
Mais toute la partie dans la forêt où elle se fait chasser, où il y a les arbres qui viennent et qui la griffent, ça a eu un impact. Du coup, je ne l'ai pas regardé pendant très 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 longtemps. Je l'ai re-regardé récemment parce que le film est ressorti il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, donc c'est un peu une peur irrationnelle que j'ai eue et qui m'a fait un blocage de ne pas regarder Blanche-Neige. Donc je connaissais l'histoire, mais j'avais extrêmement peur de ce film.
Et comment tu étais soignée?
Mais le film est sorti en version live action, du coup je suis partie le voir et c'est ça qui m'a soignée. Je me suis rendu compte que, en fait, parce que j'étais petite, donc j'imaginais que c'était ça dans la vraie vie aussi, les forêts, quand il fait vraiment très sombre, mais la forêt elle fait ça.
Mais ce qui est très drôle, c'est que tu te soignais avec... Tu es allé voir les films. C'est déjà pas mal. Tu es allé contre ta... Ça rejoint un peu ce que je veux dire tout à l'heure. Sarah ?
Oui, moi, je trouve ça très drôle parce que moi, c'était l'un des films que je regardais en boucle en étant petite. Donc, moi, c'est à l'inverse. Et je pense qu'enfant, moi, j'avais moins conscience des choses. Donc, j'avais moins de peur parce que j'osais faire plus de trucs. J'étais une enfant très réactive et parfois même les autres enfants avaient des peurs que moi je rationalisais pas encore. J'avais pas la peur du noir enfant. J'ai eu toujours eu des rideaux très épais. Moi en fait du moment où je pouvais dormir je dormais. J'ai les premiers films d'horreur que j'ai regardés me faisaient mourir de rire. Donc j'ai pas eu forcément de gros traumas ou de gros trucs qui me faisaient que je regarde de manière ridicule à l'âge adulte. Je pense que moi enfant je serais plus de l'autre côté en me disant mais pourquoi t'as peur de ça plutôt que moi avec le recul. Je pense que ça dépend aussi de la perspective et de comment je pense que peut-être que parce que j'avais d'autres grandes peurs et que du coup les petites peurs ben c'était facile à vivre et je pense que c'est aussi pour ça que je cultive le fait de crier puis d'agir.
Ce qui est intéressant, si tu veux, là on vient de voir deux choses selon moi. Je vois, première chose, que la peur évolue avec le temps, évolue avec l'éducation, évolue avec nos âges, évolue selon les situations. Ça, c'est une chose qui est très intéressante. Et moi, une peur qu'aujourd'hui je trouve ridicule, mais qu'il y a un sens d'histoire de naissance, ça, de naissance de mon enfance. Et j'avais très peur d'avoir en Amérique latine, on racontait toujours des histoires, les tontons, les tatas, ils nous racontaient des histoires, mais vraiment que vous ne pouvez même pas sortir la tête du drap parce que vous avez peur, très peur. Et au fond, j'avais peur toujours qu'il pouvait avoir une âme, quelque chose comme ça, qui sortait surnaturel et qui venait se mettre à côté de mon lit et me faire peur, tu vois. Mais j'avais vraiment peur de ça. Et des fois, même adulte déjà, j'ai commencé à me dire comment je peux soigner ça, parce que j'entendais un truc, un bruit dans l'armoire, je disais, il y a un monstre là. Donc j'ai commencé à me soigner en allant dans le sens contraire de la peur. J'allais ouvrir l'armoire, je savais qu'à tout moment pouvait sauter ce monstre, mais au fond, il n'y a plus de monstre. Et chaque fois que j'allais contre cette peur, finalement, petit à petit, j'avais moins peur et un jour j'ai oublié ce que c'est une chose naturelle et pas une chose surnaturelle. Donc c'est comme ça que j'ai soigné ma petite peur, on peut dire. Et moi, ce que j'aimerais maintenant qu'on parle de, peut-être des peurs qui sont des peurs qui nous ont sauvé la vie, des peurs qui nous ont aidé à réfléchir dans le futur. Si vous avez des histoires comme ça, de ce type de peur, moi j'en ai qui... C'est l'inconscience. Des fois, on a l'inconscience. En attendant que vous réfléchissez, je vais vous raconter une petite histoire et qui s'est vécue. J'ai parti avec mes enfants à côté d'une rivière. Et la rivière, c'était une rivière qu'il ne fallait pas se baigner là, il ne fallait pas faire de camping là, donc c'était un camping sauvage. Et je suis avec mon fils qui avait un an dans la poussette. J'avais mes deux enfants qui étaient là, 7 ans, 8 ans. Et tout à coup, la veille, il y avait eu la pluie. Et tout à coup, je me tourne comme ça, je suis en plein milieu de la rivière, une petite rivière, petit filet d'eau, et je vois un filet de 1 mètre d'eau qui vient vers moi. Et quand il vient vers moi, je vois vraiment là, j'ai eu peur, la peur de ma vie, parce que mes 3 enfants pouvaient mourir là. Donc j'ai mis mon fils rapidement, j'ai nagé pour aller chercher l'autre qui est parti loin. Et finalement, aujourd'hui, j'ai une peur qui c'est la conséquence de mon inconscience de se baigner dans un endroit comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait très attention parce que j'ai peur que quelqu'un ne sache pas que quand il pleut très fort, à l'autre jour, il peut la rivière, une rivière se transforme vraiment en quelque chose qui peut mourir. Donc c'est une peur que je dirais qui m'a aidé à avoir peur aujourd'hui, le minimum, pour ne pas faire des choses inconscientes comme j'avais fait. Toi, Sarah ?
J'ai pas l'impression d'avoir forcément d'anecdotes qui ont eu autant d'impact et qui ont créé du coup. Je pense que j'étais une enfant. Enfin, je suis devenue une personne assez réfléchie parce que j'ai une anecdote. Enfin, je me retrouvais souvent dans des situations enfant. Par exemple, je voulais souvent défendre même des gens qui étaient plus vieux que moi et du coup, je me retrouvais dans des situations où j'avais pas peur parce que j'étais la première à parler. Et je pense que c'est vrai que c'est important d'avoir quand même. Une notion de peur, parce que c'est un truc naturel. Moi, j'aurais peut-être une anecdote où Asna parlait du tout ou rien dans cette peur. Et j'avais déjà eu un débat sur ça C'était en pleine rue, je parlais avec ma cousine, et on se disait, mais pourquoi dans les films, ils représentent toujours les gens qui n'agissent pas quand il y a une peur, etc. Et cette même journée où on a eu un long débat sur le fait que, ben, comment on réagirait à la place des gens, parce qu'avant d'avoir peur, je pense qu'on essaye de rationaliser la situation, et ben, on a eu un presque accident de voiture, on va dire, mais enfin, nous, on était piétons, et on s'est regardé, on s'est dit, mais attends, mais on n'a même pas réagi. Et en fait, la peur, elle nous a un peu tétanisé sur le coup. C'est une voiture qui a pris un mauvais virage et on n'a même pas couru en arrière. Vraiment, il y a eu un truc où on s'est tétanisé et on s'est dit, mais attends, on a eu un débat cette journée. Genre, je trouve que la coïncidence, elle était forte de se rendre compte que bah, c'était représenté dans les films et qu'on voyait ça comme quelque chose de ridicule dans le débat qu'on avait eu à la base. Mais que c'est bien de ne pas ridiculiser sa peur et de comprendre pourquoi on a eu peur. Et je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir plus de réflexions et de créer un schéma différent. Et du coup, de se dire, ben, oui, il faut agir, mais parfois, il ne faut pas se blâmer aussi de ne pas avoir réagi et que c'est totalement naturel, on est des êtres humains. Et parfois, on ne réagit pas face à la peur parce que le mal qui pourrait arriver en réagissant pourrait être plus grand. Donc parfois, c'est important d'écouter son corps.
Et toi, Asna ?
Moi non plus, j'ai pas de peur qui m'a sauvé la vie déjà ou une peur immense qui pourrait sauver des vies. Par contre, j'aimerais bien revenir sur quelque chose que t'as dit, Victor, où tu te cachais sous la couette quand t'écoutais des histoires d'horreur. C'est incroyable à quel point c'est universel chez les enfants que la couette c'est une barrière de protection et que si on dépasse, les monstres vont nous attaquer. Et je trouve ça incroyable que notre génération a connu ça et que la tienne aussi et que ça, c'est transgénérationnel et dans le monde entier c'est la même chose. Et donc, je voulais juste soulever ça. Par contre, après, sur les peurs comme ça, j'en ai pas vraiment là-dessus. Après, c'est sûr qu'avoir peur, c'est un mécanisme assez complexe. C'est adrénaline ou pas. Et c'est en fonction de comment notre cerveau réagit là-dessus. Et,
juste avant, je voulais vous amener sur notre terrain. C'est la peur de l'autre. C'est pas la peur de l'autre qui vient, c'est pas la peur de l'étranger, on pourrait parler de ça aussi, hein, parce que ça lie à quelque chose qui est très important. Mais j'ai dit que la peur la plus terrible, c'est la peur qu'il y a que l'autre que tu aimes n'a pas peur de quelque chose que toi, tu as conscience d'avoir peur. Par exemple, ton enfant qui a 6 ans, 7 ans, et tu as peur de que lui ne prenne pas conscience que traverser la rue, ça peut être mourir. Ou qui n'est pas en conscience et qui met les doigts dans l'interrupteur, il peut mourir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, peut-être, je le dis clairement, par exemple, ma femme, elle laisse les enfants faire des choses, mais moi, si je suis avec un enfant qui bouge beaucoup, ça me prend 100% pour voir qu'il ne va pas toucher ça, qu'il ne va pas tomber ça, qu'il ne va pas tomber les autres choses. Je suis et trop dans les risques et donc j'ai peur. Comme je ne suis pas lui, et il peut avoir quelque chose, il y a des gens qui sont libres de laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut. Donc, parmi les choses, qu'il tombe un truc sur la tête. Et la peur, je dis, est-ce que vous pouvez me raconter quelque chose? La peur pour l'autre, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas se vacciner, par exemple, qui ne veut pas se soigner. Et vous dites, moi je me soigne, et elle ne veut pas. Tu le comprends, mais tu as peur pour elle. Tu vois, c'est cette peur qui n'est pas liée à moi, c'est liée à l'autre que j'aime. Sarah ?
Je pense qu'il y a aussi, enfin, dans cette question-là, c'est plus facile quand on est parent et quand on a un enfant à protéger. Moi, je pense que la peur qui s'apparenterait le plus à ça, c'est la peur du futur. Donc, on pourrait avoir peur de l'autre, mais de l'autre qui n'existe pas encore, peut-être. De la génération future, mais c'est vrai qu'on a déjà fait un psychodébat sur l'éco-anxiété et qui a assez bien catalysé ce sujet-là sur la peur du climat, c'était le premier qu'on avait fait. Sinon, moi j'ai plus ou moins peur pour mes proches la plupart du temps quand il se passe des choses graves, mais je pense que j'ai un caractère qui fait que j'essaye d'être la plus rassurante possible. Parce que je pense que c'est pas la chose qui aide, mais c'est important de dire, de se reconnaître quand on a peur, je pense.
Mais peut-être, pardon Sarah, peut-être aussi, et des fois, j'étais plus qu'un deux mots. Par exemple, toi, peut-être dans ta famille, c'est le pivot. Et quand il y a le pivot, les pivots, il y a, au sein des pivots, la partie, la force de la famille.
Oui,
mais... Et des fois, la force de la famille, il n'a pas peur parce qu'il doit aider les autres. Okay. J'ai fait le parallèle juste pour dire que quand j'étais en prison, je devais être très fort parce que tous les autres étaient trop faibles. Donc, je me donnais l'obligation d'être le moteur de la résilience. Je sais pas
si c'est un peu de ça, mais c'est aussi couplé au fait que, ben, par exemple... Je pense que quand tu es un enfant, tu peux avoir peur pour tes parents, mais ce n'est pas la même peur que tes parents vont avoir pour toi. Parce qu'on est un peu, la peur, elle peut être conditionnée. Et je pense que dans la société, c'est plus simple. Enfin, on laisse un peu l'insouciance à ses enfants, donc on l'expose moins à la peur. Ou alors on lui transmet une peur, mais ce ne sera pas la même que celle que les parents auront pour leur enfant. Et je pense que c'est parce que je pense que ça naît d'un... L'amour, elle est... Même si c'est donnant, mais c'est pas la même d'un enfant à ses parents et d'un parent à son enfant. Et je pense que c'est ça aussi qui fait une différence et qu'on nous prépare plus facilement. Je sais pas, on a abordé au début la peur de la mort, mais on nous prépare plus facilement. On sait que ça peut arriver et moins facilement pour un parent de dire qu'un enfant en bas âge peut partir, même si l'heure arrive à tout le monde. Quand il faut, mais...
D'ailleurs, avant de donner juste la parole à Sna, d'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'il t'a dit. Dans la psychogénéalogie, par exemple, ta grand-mère, il peut avoir peur des araignées. Ta mère, il n'a pas eu peur des araignées du tout. Mais toi, tu peux avoir peur des araignées. Ça veut dire que se transmet dans une génération de peur de son arrière-grand-mère, de sa grand-mère. Et ça aussi, c'est des peurs qui sont transmises. On ne sait pas comment, on ne sait pas par des gestes et des faits, mais ta mère peut-être n'est pas du tout arachnophobe, on va dire comme ça, mais tu transmets quand même ce que t'a transmis ta mère. Et ça, c'est des peurs qui se transmettent et des fois sautent une génération. Asna ?
Mais moi, comme Sarah, en fait, je n'ai pas de peur pour l'autre individu, mais je pense que je suis trop jeune encore pour... le ressentir en soi, parce que je suis encore dans l'enfance, je trouve, à mon âge, et je suis encore dans les peurs de l'enfance, donc j'ai pas vraiment de peur pour l'autre. Par contre, j'ai une anecdote de mes parents et moi, donc c'est encore au Sri Lanka. Je voulais chercher à manger discrètement dans la cuisine et il y avait une porte par derrière, sauf que je voulais pas me faire prendre en ayant volé à manger, donc je me suis assise au sol et j'avais pas vu que c'était en fait une fourmilière de fourmis rouges. Donc je vous laisse deviner la suite. Je me suis fait piquer de la tête aux pieds par les fourmis rouges. Et mon père m'a retrouvée. Et en fait, il a eu une sorte de poker face. Et il a joué à la rigolade pour pas me montrer qu'il avait peur, justement. Que c'était peut-être risqué, qu'il y avait peut-être du venin. Parce que j'étais vraiment piquée de partout. Et moi, je mangeais juste mon gâteau. Et donc là-dessus, et mon père m'a pas montré du coup sa peur qu'il avait envers moi, mais par contre, il a mis un autre mécanisme qui était du coup de faire des offrandes aux fourmis rouges pour pas que moi j'ai peur des fourmis rouges. Donc si on faisait des offrandes de mouches aux fourmis rouges, elles me piqueraient plus. Donc je pense que j'ai eu une éducation assez. Dès que je pouvais découvrir tout ce que je voulais, faire les bêtises que je voulais, me prendre des obstacles que je voulais. Mes parents réagissaient de manière très éducative et non très stricte, en mode c'est important, elle s'est fait piquer par des fourmis rouges, il faut aller au médecin parce qu'il y a peut-être du venin. C'était pas dans l'irrationalité et ils restaient vraiment très terre à terre. Et on voyait en fonction des symptômes que j'avais et on m'expliquait tout ça de manière très joyeuse. Donc ça fait que maintenant, à part la peur du noir... j'ai pas développé de peur de l'autre, et même dans la famille, de perdre un proche ou quoi que ce soit, je le gère quand même assez bien maintenant dans ce sens-là, parce que j'ai déjà fait face à ça, mais c'est toujours rationnel en fait. J'ai pas de peur en mode qui me prend aux tripes, ça j'en ai pas.
Je pense qu'on arrive à la pause musicale, et en attendant la musique, peut-être juste une, je sais pas s'il est prêt. Donc on va passer à la... C'est qui a choisi ce morceau? C'est Asna, je crois.
C'est un peu tout le monde au bureau. On s'est mis d'accord.
Tout le monde au bureau.
Oui,
voilà.
Et on s'est mis
pourquoi vous avez choisi ça? Qu'est-ce que c'est?
Ça va être la musique des Thriller. Dents de la Mer, en fait.
Je me dis que Thriller, non, c'est
Dents de la Mer. On avait pensé à Thriller
à la base. Et en fait, on s'est rendu compte que la version orchestre. Donc c'est un orchestre philharmonique ou symphonique?
Il me semble.
Oui, les Dents de la Mer, je pense que ça fait vraiment peur.
Mais Les Dents de la Mer, c'est transgénérationnel. On connaît tous ce son-là et ça fait toujours
Allez,
très peur.
Allez, on y va pour celui-là.
Oui.
Là, ça va venir.
Et voilà.
Ça fait peur. Bon, là, je vais passer peut-être maintenant à une peur que tout le monde a eue. Par exemple, si je vous dis, je vous dis peur et radio. Ça, c'est pour Sarah aussi. Et si je dis peur et radio, quelles sont les peurs? Là, on est à la radio. Quelles sont les peurs que tu as, toi, Sarah, qui était à la régie?
Là, tout de suite, c'était de...
Bien de mettre gérer... la musique.
Oui, de bien gérer les micros et les entrées-sons.
Vous voyez, cette peur te fait bien gérer et pas faire attention à pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est bien. Tu vois, c'est une peur. Toi, à la radio, quelle peur tu as?
Ça serait de mal m'exprimer ou qu'on comprenne mal ce que je vais dire.
Ah, ça, c'est aussi une peur de l'interprétation qu'on va faire pour rapport à nous. Et moi, j'ai peur dans la radio... de comme on est une émission qui touche beaucoup la psychologie. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas être interprété comme quelqu'un qui veut consulter les gens. Et ce n'est pas notre bureau, c'est le bureau d'un psychologue et d'un psychiatre. Nous, on est là pour lancer une dynamique de groupe, pour faire partager des expériences. Donc, vous voyez bien qu'on peut avoir toujours peur, mais ces trois peurs qu'on vient d'avoir de chacun de nous, c'est une peur qui sont les peurs nécessaires à la vie. Maintenant, je vais vous poser une question. On va commencer par Sarah, après par toi et après par moi. Est-ce que tout le monde ou il y a des gens qui se critiquent, le regard des autres. Est-ce que tu as peur du regard des autres? Attention, la peur du regard des autres, ça ne dépend pas de toi, ça dépend des autres aussi, pour plein de raisons. Donc, est-ce que tu as peur du regard des autres et dans quelle situation?
Oui, je pense que à moindre mesure, je pense que je suis pas la personne qui a le plus peur du regard des autres. Je pense parce que ça m'influe pas dans toutes les actions que je peux avoir, parce que je pense justement que si on a trop peur des autres, on s'empêche d'agir et on s'empêche de s'écouter. Mais bien sûr qu'elle est présente, parce que il y a la peur du jugement, la peur de pas être compris. Je pense que c'est important de se poser les bonnes questions et de se dire aussi parfois qu'il faut le faire malgré la peur des autres. Mais voilà, moi
ça c'est joli parce que tu viens d'expliquer quelque chose qui te casse la barrière. C'est ça qui est joli. Et c'est bien parce que bien souvent il faut aller contre cette peur quand surtout la peur devient irrationnelle. Quand la peur devient, attention, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais pas pour perdre le regard des autres, c'est parce que tu ne veux pas peut-être avoir une mauvaise impression de ce que tu as envie de donner aux autres, que ce n'est pas la même chose. Et toi, Asna?
Oui, moi aussi j'ai peur du regard des autres, mais j'aimerais différencier deux types de regards, le regard des inconnus et le regard des proches. J'ai moins peur du regard des inconnus parce que je les estime pas, et que leur avis ne m'est pas intéressant. Par contre, le regard de mes proches, oui, j'ai peur. Et je vais prendre en considération ce qu'ils vont me dire parce que je les estime. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait faire cette différenciation du regard des autres. Et je pense qu'on a un appel,
oui.
On va le prendre.
On m'a donné une priorité à l'appel.
Et là-dessus...
Allô, on vous écoute.
Allô, vous m'entendez?
Oui.
Oui, bonsoir, c'était pour une question. Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est possible de vivre sans peur?
Et pour moi, c'est ma position à moi, c'est impossible de vivre sans peur, parce que la peur, si vous n'avez pas peur, vous pouvez risquer de mourir à cause de ne pas avoir peur. Vous savez qu'il faut avoir un minimum de peur. Le seul problème qu'il y a avec la peur, c'est un peu comme le stress. Il y a le stress positif, où vous préparez un repas, vous êtes tous excités comme ça, à plein de stress, mais positif, et vous avez le stress négatif. La peur, il est nécessaire, mais donc il faut l'accepter. Mais par contre, la peur, quand devient quelque chose qui ne vous laisse pas vivre bien, qui vous torture, tout ça, et qui vous massacre, cette peur, il faut faire le nécessaire pour qu'elle devienne le minimum possible. Mais tout le monde, moi, vous, les gens qui sont ici présents, on a peur des situations. Par exemple, si je me mets à parler de ma grand-mère qui est morte, j'ai peur de tomber larmes devant les autres. Mais je tomberai quand même mes larmes parce que je ne pourrai pas réciter le fait de parler de ma grand-mère. Et j'ai peur de ça, mais c'est une peur que je vais dépasser. Mais comme je racontais tout à l'heure, aujourd'hui, je n'irai pas à une rivière avec mes enfants et juste le jour qu'il pleut. Parce que mon expérience me dit que cette peur, je ne dois pas la faire. Mais par contre, si j'ai peur du futur, si j'ai peur des amis, si j'ai peur d'être trahi, si j'ai peur de tout, évidemment, ça crée un problème global. Et c'est ça qui est intéressant de savoir comment vous gérez plutôt vos peurs incontrôlées, on va dire comme ça. Les peurs, et c'est pour moi, c'est non, on ne peut pas vivre sans peur. C'est parti de la vie, c'est parti d'ailleurs l'être humain quand il est, l'animal quand il est là, et vous connaissez le triangle Maslow, c'est la sécurité de se sentir sûr que vous ne soyez pas agressé. Donc cette peur, ce sont des peurs qui permettent de vous réveiller quand votre enfant il va pleurer par exemple, parce que vous dites vous avez peur qu'il y a quelque chose, donc vous vous réveillez. Est-ce que cette peur est angoissante? Oui. Si vous écoutez trop votre bébé, il y a le mari qui n'écoute pas, il n'aura pas peur parce qu'il dort. Donc, vous voyez, entre les deux, il va y avoir un juste milieu qu'on va essayer de gérer le mieux possible, chacun de nous, comme il peut. Je ne sais pas si vous voulez répondre.
Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est impossible de vivre sans peur et que c'est un besoin vital. La peur, ça fait partie... Ça fait partie d'un besoin qui nous a longtemps servi à nous protéger. Hein, je pense que Tout ce qui est protection et sécurité, c'est né de la peur. Tout ce qui est plan de prévention, c'est né de la peur, parce qu'il fallait trouver des solutions pour réagir à des situations extrêmes. Et surtout, je pense que dans cette question, ce qu'il faut soulever aussi, c'est que de plus en plus, dans la génération, on essaye de combattre des peurs et d'arriver presque à une insensibilisation. Et même à choisir ses peurs, je pense que là, on est dans la période d'Halloween. C'est pour ça qu'on avait choisi ce thème à la base. Et y a vouloir se faire peur. Donc, il y a de plus en plus une culture de la peur qui grandit, je pense, chez les jeunes. Ça peut mener à des gens qui se sentent insensibles, mais je pense que ça crée plus de la violence qu'autre chose. Et donc, on a les films d'horreur, les maisons hantées, et même dans vouloir avoir peur, créer de l'adrénaline, de la sensation forte, il y a les attractions. Donc, il y a tout ce truc de vouloir créer un sentiment de stress et de peur volontairement. Et là, c'est plus contrôlé, c'est dans un domaine très fermé. Oui,
peut-être je vais ajouter deux petites choses, parce que dans les moments peur, chacun de vous, par exemple, je peux avoir peur de parler avec mon père, mais je n'ai pas peur de parler avec ma mère. Parce que je sais que cette peur, et derrière, il y a un conflit, peut-être. Donc, des fois, toute cette peur différente, moi, ce que je fais, je les décortique en toutes les peurs possibles que j'ai pour rapport à quelque chose, et je vois comment je peux agir avec chaque peur pour que je vis mieux. La peur d'être à Noël en famille, et la peur qu'il y ait un gros conflit, parce qu'on va parler de politique, on va parler de quelque chose qui va produire un problème, donc vous avez peur. Mais vous faites juste ce que vous pouvez pour que la situation ne se répète pas. Donc, vous faites votre part, mais comme vous êtes en groupe, s'il y a une dispute, c'est partie des choses qui vous n'êtes pour rien, à mon sens.
Et toi, Asna, tu penses qu'on essaye de moins avoir peur en ce moment ou pas du tout ou...
Je pense qu'en règle générale, on essaye d'éviter tous les facteurs qui peuvent nous amener à la peur. Par contre, comme disait Sarah, on cherche à avoir ce sentiment de peur et de stress dans un cadre encadré et sécuritaire, et on le sait d'avance. Donc le fait d'avoir peur, qu'on réagisse de tout ou rien, on sait qu'on est en sécurité, que rien peut nous arriver, mais on cherche ce petit pic d'adrénaline. Donc même si on essaye de supprimer nos peurs hors cadre sécuritaire, on continue à la rechercher dans la vie de tous les jours, rien qu'avec les films d'horreur qu'il y a à foison, avec les maisons hantées... Rien qu'avec Halloween, que beaucoup de jeunes aiment fêter, en fait.
Merci de votre appel, madame. J'espère avoir donné notre opinion. Voilà, peut-être on va continuer toujours dans les peurs, parce qu'on parlait de l'intensité de la peur, les peurs extrêmes, les peurs que ça nous fait rire. Mais peut-être aussi, on peut parler un petit peu des phobies. Chacun de nous, il peut avoir des phobies. La phobie, c'est l'extrême de la peur. C'est déjà quelque chose qui devient maladif. Des gens qui ont peur de parler en public, des gens qui ont peur des araignées, d'autres qui ont peur d'être seuls, d'autres qui ont peur d'être sociables. Bon, toute cette peur, j'aimerais avoir un peu votre avis, si vous avez des choses que vous pouvez dire pour rapport à ces phobies. Sarah ?
Déjà, on a mis la musique des Dents de la Mer, donc c'est important de parler, y a de la phobie des animaux, et c'est vrai que ce film, il a cultivé la peur des requins. Ça a entraîné beaucoup de maltraitance sur les requins, qui parfois étaient inoffensifs, parce qu'on parlait souvent du grand requin blanc, etc., mais il y a plein de requins qui du coup se sont retrouvés limite pourchassés après cette culture, parce que c'est vrai qu'on parlait de peur générationnelle, mais il y a des peurs du coup qui se transmettent. Il y a des recherches aussi qui sont faites, même des peurs qui datent d'un ancien temps. On voit des gens qui ont été paysans, qui ont des peurs, qui ont eu des familles paysannes et qui ont des peurs qu'eux ne comprennent pas. Donc c'est important de savoir aussi ce qui se passe dans la généalogie. Mais quand je parle de phobie, moi je pense que ma peur personnelle qui se rapprocherait le plus d'une phobie, c'est que j'ai la peur de ne pas être consciente de mes mouvements, et ça entraîne pas mal de choses. C'est déjà, j'ai déjà eu une paralysie du sommeil, et ça m'a fait extrêmement peur. Et il y a aussi le fait que j'ai du mal à m'évanouir, c'est-à-dire que quand je sens que je m'évanouis, je conscientise mon évanouissement et je ne m'évanouis pas. Et je sais qu'il y a plein de moments où médicalement j'aurais pu m'évanouir, mais j'ai tellement peur de pas être consciente de mon corps que je sais, genre, je lutte jusqu'au plus profond de moi-même, parce que pour moi, c'est pas possible de ne pas être consciente. Et ça joue sur plusieurs trucs, parce que, bon, après, pour des raisons aussi spirituelles, je fais aucune consommation de trucs qui pourraient altérer ma manière d'être et de penser. Mais ça, c'est aussi lié avec cette peur de ne pas contrôler mon être. En fait, j'ai pas enfin, ce qui se passe autour, c'est pas grave, mais le fait de ne pas contrôler mon être, je pense que ça me pourrait... C'est une de mes plus grandes peurs.
Et toi, Asna ?
Mais moi, j'ai pas réellement de phobie. Je pense que je suis un peu trop insouciante pour conscientiser la peur. Après, j'ai eu un passage de 3 mois où on pourrait dire que c'était une phobie très passagère, mais j'avais très peur de prendre la parole en public suite à mon parcours scolaire. Mais comme vous pouvez le voir, je l'ai réglé. Maintenant, j'ai aucun problème à parler en public. Pour vous dire qu'avant, je ne pouvais pas parler, je pleurais, je tremblais et je restais tétanisée, je ne pouvais plus bouger. Mais maintenant, c'est réglé. Mais oui, je pense que maintenant, je suis un peu trop insouciante et peut-être naïve sur les bords pour conscientiser une peur qui pourrait arriver et la rendre phobique carrément.
Oui, c'est vrai qu'il y a des peurs que... Bon, je peux déjà parler de la peur de l'avion, qui est la seule chose que j'avais peur. Mais ce qui est intéressant, quand vous avez une phobie qui vous fait transpirer de peur, au fond, ça t'apprend qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, comment quelqu'un peut être tétanisé, par exemple, pour parler en public. Ça, c'est pas la même peur, mais comme tu as une phobie quelque part, tu connais que la réaction, c'est ça. Je me rappelle dans un des cours de communication que je faisais aux langues appliquées à Aix, et il y avait que des filles, il y avait un garçon. Et le garçon, il m'a dit, monsieur, c'est moi qui vais passer en première dans votre examen. Et l'examen, c'était parler en public. Tout à coup, il se met debout, lui, il se met à parler, et il reste pétrifié. Les filles sont venues courant pour le prendre avant qu'il tombe, parce qu'il était raide sous la chaise. On l'a essayé la soirée, il était raide parce que c'était un truc bagal. Voilà. Donc, et on appelait les pompiers. Donc, vous voyez bien comment cette peur, cette phobie de parler en public, de regarder les autres, je ne sais pas, mélanger, a créé quelque chose de physique, psychosomatique, pour rapport à une situation. Donc, on voit bien que nos peurs, nos organes de notre corps, ils sont toujours une résistance de quelque chose. Il y a quelqu'un qui va avoir peur, il va avoir mal au ventre, il y a d'autres qui vont avoir mal de tête. Donc, notre corps, c'est un peu les psychosomatiques de notre angoisse de peur. Donc, pour les phobies, j'ai connu beaucoup, beaucoup de gens qui sont des peurs terribles et qui vivent très mal. Par exemple, des gens qui ne peuvent pas monter un ascenseur, et des gens qui, déjà, s'il y a 3-4 personnes, ils commencent à transpirer, il faut qu'ils s'éloignent. Donc, c'est des problèmes vraiment qui sont difficiles à vivre. Et dans ces cas-là, oui, il faut se faire conseiller, se suivre par des thérapeutes et des psychologues qui sont capables de vous accompagner à faire face à ces peurs extrêmes.
Moi, j'ai une question pour Asna. Je suis curieuse de savoir comment tu as fait pour surmonter du coup, ta phobie qui a duré 3 mois. Ou est-ce que tu as une méthode à partager ?
C'est antiphobique.
Oui, non mais... Alors cette peur, elle a commencé à ma première année de prépa. Et on devait passer devant nos professeurs qui étaient surdiplômés dans leur matière sur des sujets au hasard, sur une thématique au hasard, sur un panel de 8 chapitres et c'était un point du chapitre, donc je vous laisse le hasard y joue, on peut pas réviser tout ça, je suis désolée. Et je pense que j'avais peur de parler à quelqu'un qui était maître dans le sujet et moi j'allais totalement massacrer le sujet derrière parce qu'il fallait que je fasse tout. Et il s'est bien passé 3-4 séances et c'était quand même des oraux de 10 minutes avec 5 minutes de questions en plus. Et j'étais tétanisée au début, je ne savais pas comment faire. Sachant qu'avant, je n'avais pas de problème à parler, à faire un exposé. C'est vraiment arrivé à cette période-là. Donc, en fait, ils m'ont mis au pied du mur. Donc, ça fait que j'ai pleuré devant eux pendant 10 minutes. Et à force de pleurer pendant 10 minutes, 3 fois d'affilée, c'est en mode, on va raconter des conneries, mais au moins, on va parler. Ça va peut-être passer plus vite. Et du coup, c'est comme ça que ça a été débloqué. On m'a mis au pied du mur. Et en fait, on m'a montré que pleurer, ce n'était pas une honte. Et tétanisée, c'était aussi normal. Et du coup, ça m'a tout débloqué. Donc maintenant, j'ai aucun problème avec n'importe qui. Je pourrais raconter des bobards à quelqu'un d'expérimenté avec une confiance en moi. Bon, c'est incroyable.
C'est sûr que c'était un peu brutal, mais c'est bien. Je suis contente que tu nous partages un peu la solution qui pourrait être d'être exposé à sa peur, surtout si c'est handicapant. Je pense que c'est vraiment là le résumé, Victor a beaucoup insisté sur ça tout au long de l'émission. C'est important de faire face à sa peur si elle est handicapante sur ce qu'on veut vivre, sur ce qu'on veut faire, sur les actions qu'on veut mener. Par exemple, quand on parle de la peur de l'avion, ben, si tu n'as pas d'utilité à prendre l'avion, je connais une personne, c'était ma nourrice quand j'étais petite, elle n'a jamais pris l'avion de sa vie. Et je pense que si elle avait peur de l'avion, on ne l'aurait jamais su, puisqu'elle ne l'a jamais pris. Mais si tu as besoin de prendre l'avion pour des impératifs, ben, c'est important de faire face à sa peur et d'être exposé petit à petit, de peut-être prendre, de faire des courts trajets dans un premier temps et d'après faire le grand trajet qui pourrait, je sais pas, t'amener à ta famille ou te faire faire des gros projets. La peur de se lancer aussi.
Peut-être il y a une chose que je veux dire, qui, au fur et à mesure que je vous écoute, oui, ça me fait penser à quelque chose qu'au fond, si on réfléchit bien, plus on a un cœur qui est fort pour rapport à l'humanité, pour rapport à la vie, plus on est sensible, on dirait, plus on va être heureux. Mais plus on est sensible, plus on est sensible aussi à la souffrance des autres ou de l'autre. Et dès qu'on est sensible comme ça, c'est vrai qu'on vit beaucoup plus intensément nos bonheurs. Mais les problèmes aussi, ça je les vois, quand on écoute les nouvelles pour passer à un autre niveau de peur, la peur de l'humanité, la peur que la planète parte ailleurs, que la planète disparaît à cause de nous, c'est que l'homme disparaît dans la planète, on va dire clairement comme ça. Et toutes ces peurs sont des peurs que je dirais qui invitent à réagir. Mais il peut inviter aussi à se détruire. Voyez comment la peur peut passer d'un cadre à l'autre. Si je fais quelque chose, par exemple, nous, on va faire de l'éducation, on se sent déjà soulagé d'une peur qui est, en face de ces peurs, je suis en train d'agir avec ma part des choses. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre, qu'aujourd'hui aussi, quand on voit des gens qui sont massacrés, qui sont morts à l'autre bout de la terre d'une façon injuste, vous avez peur pour eux. Vous n'êtes pas eux, mais vous avez peur pour eux. Pourquoi ? Parce que vous avez une conscience, parce que vous avez un cœur. Et donc, pour moi, je dirais que c'est très, très important de savoir choisir son camp. Et son camp, je préfère être sensible, avoir un cœur, tout en sachant que je vais avoir des souffrances qui vont mourir pour la peur des gens qui meurent et qui meurent de façon terrible, les fins de vie, des gens qui meurent d'Alzheimer, des gens... Je ne vais pas faire que ça, mais je peur pour eux. Et quand je peur pour eux, évidemment, j'ai toujours la réaction, qu'est-ce que je fais pour, ou comment je fais pour arranger. Et certaines choses, je dois aussi avoir une certaine, comment on peut dire,
recul.
Un certain recul. Parce que si je n'ai pas le recul, si je m'embahis de tout ce cœur que tu peux avoir, à un moment venu, c'est très difficile. Et je dirais que la peur, elle est liée aussi à l'amour.
J'aimerais revenir, Victor. Moi, je pense qu'il faudrait apprendre, même si on est sensible, à dissocier tout ce qui nous, tout ce qu'on peut pas toucher en fait, où on n'a pas d'effet direct, et ne pas s'imprégner, se gorger de cette peur. C'est juste quelque chose qui va nous trotter sur la tête et qui va rester en tête, et on pourra pas agir là-dessus. Et je pense qu'il faut vraiment se dissocier de cette souffrance et cette peur pour justement pas se faire angoisser, ni stresser, ni être surchargé là-dessus.
Mais justement, je dis que dans mon cas, cette angoisse, dès qu'il passe de, on va dire, échelle 1 à 10, dès qu'il passe 1, j'agis. Aujourd'hui, il y a d'autres qui vont agir. Mais je n'ai pas d'angoisse. J'ai une angoisse nécessaire, comme l'enfant qui ne doit pas traverser la rue pour ne pas se faire écraser, parce que papa lui a dit de faire ça. J'ai cette petite angoisse dès que j'aime ressentir ce que je ne touche pas, par exemple, des gens qui meurent à l'autre bout de la terre. Injustement, oui, je vais être en résonance avec eux, je ne vais pas être comment ça, celui qui ne voit rien. Je vais continuer à voir, mais je fais comme toi, tu dis, un, deux, et à partir de là, je ne fais rien, ou je fais déjà tellement ma part que ça, je dis, il y a d'autres, Sarah, d'autres vont faire ça. Donc, je ne dépasse pas les curseurs, la ligne rouge,
oui,
on va dire
comme
ça. Oui,
parce qu'on peut être engagé
sinon,
sans...
Sinon, je coule avec. T'as raison.
Parce qu'on peut être conscient et engagé sans ressentir forcément
et
de
toi,
peur.
Et toi, Sarah ?
Oui, c'est important d'agir. Et il y a aussi il ne faut pas trop entretenir sa peur, je pense, que pour ne pas que ça se transforme justement en angoisse. Il faut en avoir conscience, il faut quand même ne pas la laisser sur le côté. Mais il faut soit agir ou voir des actions qui sont faites Parce que la peur, ça peut être utilisé contre nous, justement. Si on a peur, on peut croire un message et on peut être aussi plus naïf sur certaines choses. Donc c'est important de savoir qu'on a peur, pourquoi on a peur, et de ne pas entretenir cette peur, savoir qu'elle existe, oui, mais c'est important de ne pas se laisser avoir parce que les gens peuvent utiliser notre peur, justement.
Ce qui t'a dit est très, très important et c'est bien qu'on finisse par cette chose qui t'a dit, Sarah, parce que la peur, comme la sensibilité, ça peut être une arme contre vous. Les gens qui veulent vous manipuler, s'ils savent que vous avez peur, s'ils savent que vous êtes sensible, des fois, et c'est quelque chose qui va augmenter le risque que vous soyez manipulé ou que vous êtes entouré de personnes toxiques parce que, justement, ils savent que vous êtes très sensible. Et tu as tout à fait raison d'avoir dit ça parce que la peur se peut tourner contre nous et les autres, ils peuvent l'utiliser contre nous.
Oui, c'est important à conscientiser. Là, on arrive bientôt à la fin de l'émission.
La prochaine émission, je vous avais dit aussi que vous pouvez nous écrire pour nous proposer des thèmes. Donc, on va choisir un thème un peu différent à la peur, évidemment. On va choisir peut-être... moi, j'ai envie de parler de très positif, les rires. J'aimerais bien qu'on parle de la thérapie par les rires, et pourquoi les rires sont importants dans notre vie, et pourquoi sourire, c'est aussi rire. Peut-être, je ne sais pas si vous pensez que c'est une bonne thématique pour la prochaine semaine, surtout que je vais être seul, on va être deux peut-être, donc on n'a pas tout le temps de rire, mais on verra si on l'a fait après quand vous retournez.
Ben, je pense que c'est une bonne idée, en plus tu es un spécialiste du rire presque.
J'ai créé l'association SOS Rire. Mm. Oui, on pourrait parler beaucoup, j'ai eu même des grands scientifiques, des psychiatres qui m'ont téléphoné pour faire des mémoires sur l'importance du rire dans notre bien-être.
Tu pourrais en inviter quelques-uns pour la semaine prochaine.
Et oui.
On ne sera pas seul comme ça.
et donc là on sera au mois d'octobre, donc on aura certainement une émission sur le rire. C'est important, la thérapie par le rire, et en parlant de thérapie, on est en octobre rose, donc c'est le mois du cancer du sein. Et on va certainement faire une émission sur les jeunes aidants. Donc, comment agir quand on est malade
bien.
Dans notre...
Surtout qu'on travaille beaucoup.
Ce sera avant la fin de ce mois-ci. Je vous annoncerai la prochaine fois que je serai dans l'émission, quand est-ce que cette émission va passer. En tout cas, merci à vous, à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour les appels.
Et proposer des thématiques, vous pouvez nous écrire, sans problème.
Et cette émission sera rediffusée mardi. Donc, ce ne sera une rediffusion, vous ne pourrez pas appeler. Mais jeudi prochain, vous pourrez nous appeler en direct.
Et si vous voulez avoir très peur, je vous invite à tous voir le film Shining. Tu l'as jamais vu ?
Non, jamais.
Ah, c'était horrible.
Mais moi, j'évite les films d'horreur quand même.
Non, parce que c'est la peur psychologique. Le mec devenait fou. Donc, il était seul dans un endroit. Et il fait ce côté avec quelqu'un avec qui nage. Il coupait. C'était
Merci
horrible.
Merci beaucoup, Victor. Au revoir à tous.
Et au revoir. Bonne soirée.
Au revoir à tous.